لا، حميدة الشكوري. Merci, estimée délégation. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue chaleureuse. Je souhaite la bienvenue à cette délégation népalaise. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je tiens aussi à louer les contributions inimitables de notre honorable collègue, Madame Bandaranaike, pour ses efforts continus. Excellence, l'agriculture contribue à hauteur de un tiers du PIB du Népal. 74% des femmes sont employées dans l'agriculture, presque le double du taux dans la région de l'Asie du Sud, c'est-à-dire 39% si je ne me trompe pas. Toutefois, les prises de décision, l'élaboration de politiques, les allocations budgétaires et le régime foncier est souvent dominé par les hommes. Bien que 34,4% des femmes possèdent des terres agricoles, elles n'ont parfois pas le contrôle sur ces terres. Parmi les 62% des ménages qui se livrent à l'agriculture, 32% sont dirigés par des femmes. Malgré leur rôle important dans le secteur, les rapports indiquent que la plupart des outils agricoles sont conçus pour les hommes, ce qui laisse les femmes dépourvues d'outils appropriés qui pourraient réduire la charge physique et le temps qu'elles y consacrent. De plus, les femmes se heurtent à de nombreuses limites telles que les ressources, le crédit, la terre, les services d'extension, les services d'orientation et la formation. Je félicite le Népal pour les efforts dans le cadre des initiatives telles que le programme qui s'appelle le programme d'autonomisation des femmes du président. On entend bien là le programme du président pour les femmes. Bien l'éducation et la formation ainsi que les efforts pour améliorer la prise de décision des femmes sont notoires. Toutefois, assurer la durabilité de ces programmes est essentiel, notamment dans les zones rurales où les femmes se heurtent à de graves difficultés, notamment l'accès limité à l'éducation, à la santé et aux ressources financières. Le gouvernement a introduit des mesures pour améliorer les droits fonciers des femmes grâce à l'enregistrement, entre autres, et au cadastre. Eh bien, les barrières sociales empêchent toujours les femmes de pleinement tirer parti de ces droits. L'éminente délégation pourrait-elle nous expliquer comment les besoins spécifiques des femmes rurales ont été couverts pour ce qui est de la distribution des terres, la sécurité alimentaire, le changement climatique, les politiques en matière de catastrophes naturelles, les programmes et les processus de prise de décision. Quelles mesures ont été prises pour garantir un accès égal aux crédits et autres formes de soutien financier pour les femmes et que faites-vous pour améliorer leurs connaissances financières et leur maîtrise de la finance? Quelles initiatives sont en place pour conduire des recherches et pour développer des technologies agricoles faites pour les femmes afin de réduire la charge physique et le manque de temps chez les agricultrices? Quel plan existe pour établir des centres d'apprentissage et d'information au niveau local pour les femmes rurales afin d'améliorer leur compréhension des politiques, programmes et plans de développement clés? Et quel a été le retentissement de ces programmes d'autonomisation, tels que le programme du président pour l'autonomisation des femmes, qui s'appelle Samridi, afin de resserrer l'écart entre les hommes et les femmes dans la participation économique, surtout pour les ménages qui vivent en deçà du seuil de pauvreté? Que faites-vous pour pallier les disparités régionales qui peuvent entamer la capacité des femmes de jouir de ces programmes? Les femmes autochtones représentent 36% des femmes au Népal, ce qui est un groupe de population très important. Toutefois, les rapports indiquent que les femmes autochtones subissent une triple discrimination en tant que femmes, en tant qu'autochtones et en tant que femmes autochtones. Les femmes et filles autochtones et les femmes et filles autochtones handicapées sont toujours grandement invisibles. La Commission nationale des droits de l'homme de votre pays, le Népal, s'est dite préoccupée au sujet du manque de reconnaissance spécifique des femmes autochtones dans les politiques nationales, ce qui met en exergue les barrières qui se dressent devant elles quand il s'agit de l'exercice de leurs droits. En comparaison avec les femmes des groupes et des castes dominantes, les femmes autochtones vivent une exclusion et une discrimination plus aiguë en raison de leur non-reconnaissance constitutionnelle. Qu'en est-il de l'observation finale 2018 de notre comité CEDA visant à aligner la Constitution sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones? Qu'en est-il de cette harmonisation? Quelles mesures ont été prises pour recueillir des données ventilées par sexe, groupe ethnique, situation géographique et autres facteurs opportuns pour pleinement comprendre le statut et les difficultés que vivent les femmes et les filles autochtones? Quel plan existe pour pleinement reconnaître les femmes autochtones en tant qu'un groupe distinct dans les lois et les politiques afin de garantir leur pleine représentation, participation et action ciblée pour venir à bout de leurs exclusions et vulnérabilités uniques plutôt? Qu'avez-vous fait pour garantir un accès et un contrôle des femmes autochtones sur les terres agricoles, les ressources foncières, territoriales, halieutiques et coutumières? Quelles mesures ont été prises pour garantir une justice climatique pour les femmes autochtones vivant dans les zones vulnérables au climat? Les Dalits sont une caste népale qui est considérée, sur le plan traditionnel, comme inférieure, une caste opprimée dans le cadre de la caste quadripartite de l'hindouisme. C'est une hiérarchie en quatre étages. Environ 1,5 million de Dalits vivent dans les 77 districts du Népal. Les Dalits représentent 15% des femmes au Népal. Qu'avez-vous fait pour mettre en œuvre pleinement la loi de 2011 sur la discrimination sur le motif de la caste et l'intouchabilité, les sanctions et les infractions? Les attitudes ont-elles changé envers les femmes dalites? Quelles mesures ont été prises pour améliorer la responsabilisation de la police, des forces de l'application de la loi et des mécanismes judiciaires pour protéger les victimes contre la discrimination au motif de la caste et pour les protéger contre les pressions sociales, l'ingérence politique et les réparations et pour assurer